VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 18 janvier 2023. Dans l'est de la RDC, une manifestation contre la force régionale a été violemment réprimée à Goma. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré inquiète du sort des civils ciblés par les djihadistes. Le Nigeria ne reportera pas le scrutin présidentiel, a fait savoir le président de la commission électorale face aux craintes concernant l'insécurité. La ministre américaine des Finances, Janet Yellen, va rencontrer vendredi à Dakar le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, l'Ouganda va bénéficier d'un décaissement équivalent à 240 millions de dollars. Nous aurons le sport. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une marche de protestation contre la force est-africaine a été violemment dispersée par la police à Goma. Le point avec Idriss Fall.
La marche a été stoppée par des grenades lacrymogènes tirées par la police. Une centaine de manifestants à l'appel des mouvements citoyens s'étaient rassemblés près d'un grand point de Goma pour dénoncer la force est-africaine qu'ils jugent inefficace. La population est fatiguée de voir cette force inutile se transformer en une mission d'observation, a déclaré Espoir Minuka, militant de Lucha, co-organisateur de la manif. La frustration est montée d'un cran. Les militaires kenyans ont organisé fin décembre et début janvier des cérémonies de retrait des rebelles du M23 et de reprise de contrôle dans deux localités au nord de Goma. Ce retrait a été dénoncé comme un leurre par l'armée congolaise et contredit les témoignages affirmant que le M23 occupe toujours des positions d'où il était censé se retirer. Plusieurs milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été déployés pour lutter contre les groupes armés. 750 militaires sud-soudanais sont attendus prochainement. Depuis fin octobre et malgré de multiples déclarations de cessez-le-feu, le M23 continue d'affronter l'armée congolaise et des groupes armés.
Le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a estimé mardi qu'une nouvelle phase avait été enclenchée par les terroristes contre des civils quelques jours après l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes dans le nord du pays. Les détails avec Rosine Munizero.
Aujourd'hui, une autre phase est enclenchée par les terroristes. Sur le volet militaire, nos hommes sont déterminés à les affronter. Ils commencent donc à s'en prendre aux populations civiles, innocentes, les humilier, les tuer, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré lors d'une rencontre à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou avec des étudiants burkinabés. Jeudi et vendredi, près de 80 femmes ont été enlevées par des djihadistes présumés dans trois localités autour de la commune d'Arbinda, dans le nord du pays. Des recherches terrestres et aériennes sont en cours pour les retrouver. Les États-Unis, la France et les Nations Unies ont exigé leur libération immédiate. La zone est difficilement ravitaillée à cause du blocus des djihadistes. Selon une source sécuritaire, le ravitaillement a débuté hier par voie aérienne. L'état-major burkinabé appelle toutes les bonnes volontés de mettre à la disposition de l'armée, à titre gratuit ou à prix social, des camions avec conducteurs pour le transport des vivres et des denrées de première nécessité afin d'assurer le ravitaillement des populations dans les zones à fort défi sécuritaire.
La justice sénégalaise a ordonné le renvoi de l'un des chefs de l'opposition, Ousmane Sonko, devant un tribunal criminel pour viol présumé d'une employée d'un salon de beauté, ont indiqué aujourd'hui les avocats des deux parties. L'affaire est source de tensions depuis 2021. M. Sonko est arrivé troisième à la présidentielle de 2019 et passe pour être le candidat considéré bien placé pour celle de 2024. Président du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, Ousmane Sonko dénonce une machination Oudi par le président Macky Sall pour l'écarter, ce que ce dernier réfute. Le vice-président de la Gambie, Badara Aliou Diouf, est décédé en Inde, a annoncé aujourd'hui le président Adama Barrow, âgé de 65 ans. Il avait été nommé vice-président de la Gambie en 2022. Il avait auparavant occupé le poste de ministre de l'Éducation. Le président Barrow a déclaré sur Twitter que M. Badara est mort des suites d'une courte maladie sans donner plus de détails. Le vice-président a quitté la Gambie il y a environ 3 semaines pour suivre un traitement médical en Inde. Le chef de la commission électorale du Nigeria a déclaré qu'elle ne reporterait pas le scrutin présidentiel du mois prochain malgré les inquiétudes suscitées par l'insécurité généralisée. Mahmoud Yakubu s'exprimait mardi au siège du groupe de réflexion Chatham House de Londres. Mohamedou Mfa nous en dit plus.
La commission n'envisage pas et encore moins ne prévoit de reporter les élections générales de 2023, a déclaré Mahmoud Yakubu. « Nous allons de l'avant pour organiser l'élection comme prévu », a-t-il ajouté, précisant que l'INEC, la commission électorale, faciliterait le vote dans les camps des millions de personnes déplacées à l'intérieur du Nigeria. Il a également indiqué que la commission avait testé toutes ses machines d'identification biométrique des électeurs, un équipement relativement nouveau qui a connu quelques problèmes techniques lors des dernières élections nationales et qu'elle était convaincue que toutes les personnes inscrites seraient en mesure de voter. Les Nigériens doivent choisir un nouveau président le 25 février prochain. Le pays est confronté à une insécurité sans précédent qui a vu l'INEC elle-même être la cible de violences, notamment lorsque des assaillants ont attaqué le siège de la commission dans l'état d'Imo le mois dernier. En 2019, l'INEC avait repoussé les élections d'une semaine, quelques heures seulement avant le début du scrutin, invoquant des problèmes logistiques.
Le président kenyan William Ruto affirme qu'il y a eu un complot pour enlever et tuer le président de la commission électorale pendant les élections générales de 2022. Lundi, le président de la commission, Wafula Chebukati, a appelé le chef de l'État kenyan à lancer une enquête sur ce qu'il décrit comme des tentatives de porter atteinte à l'indépendance de la commission pendant l'élection. Selon les médias locaux, le président Ruto a déclaré mardi que le complot a été approuvé dans les plus hautes sphères de l'État et que l'objectif était d'installer des commissaires qui finiraient par annoncer un candidat qui n'a pas été élu par le peuple. Le président de la Cour suprême, la présidente de la Cour suprême, devrais-je dire, d'Éthiopie, Meaza Achenafi et son adjoint Solomon Areda ont démissionné mardi. Les raisons de leur démission n'ont pas été précisées. Le Parlement a ensuite approuvé la nomination du professeur adjoint Tedros Mireille de l'Université d'Addis Abeba au poste de juge en chef et celle d'Abeba Ambialé, juge à la Cour suprême fédérale au poste de juge en chef adjoint en remplacement respectivement de Meaza et Solomon.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La ministre américaine des Finances, Janet Yellen, s'est envolée pour une visite de 11 jours dans plusieurs pays africains après un détour par la Suisse afin de renforcer les liens avec les États-Unis. Le point avec Abdou Ramandia.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, entend se rendre en Chine dans un futur proche, a annoncé Washington peu après sa première rencontre en personne à Zurich, en Suisse, avec le vice-premier ministre chinois Liu He. Puis Mme Yellen va se rendre au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Pour la première étape de son périple de 11 jours, Mme Yellen va rencontrer vendredi à Dakar le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Cette visite intervient après la tenue mi-décembre du sommet États-Unis-Afrique à Washington, durant lequel la Maison-Blanche a annoncé des investissements à plusieurs milliards de dollars sur les années à venir. La ministre américaine devrait en profiter pour souligner les efforts américains afin de renforcer les partenariats avec les pays africains en augmentant les niveaux tant en termes d'investissement que de flux commerciaux, selon le Trésor. Janet Yellen doit par la suite rencontrer le président zambien Hakainde Hichilema, dont le pays vient encore de se déclarer en défaut de paiement.
En Ukraine, 14 personnes, dont le ministre de l'Intérieur, plusieurs responsables du ministère et 3 enfants, ont été tués par la chute d'un hélicoptère à Brovary, à la périphérie de Kiev, ont annoncé les autorités. Le gouverneur de la région avait indiqué que 18 personnes ont été tuées, mais les services d'urgence ont par la suite annoncé 14 morts et 29 blessés, dont 10 enfants. Le président Volodymyr Zelensky, qui a qualifié le crash de terrible tragédie, a précisé que le bilan complet des victimes n'était pas encore établi et qu'il avait ordonné lancer une enquête. En France, dans un front uni, les organisations syndicales ont appelé à une journée de grève nationale et de manifestation demain, jeudi, pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement et qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans. Les principaux responsables syndicaux estiment que la mobilisation devrait être forte, notamment dans les transports où le gouvernement a prévenu d'un jeudi de galère. La Cour suprême, plus haute juridiction israélienne, a invalidé aujourd'hui la nomination par le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, du ministre de l'Intérieur, Ari Ederi, qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale. Le pouvoir judiciaire en Israël, le seul en mesure de contrôler le gouvernement et de sauvegarder les droits individuels. Et puis, en Afghanistan, au moins 70 personnes sont mortes en une semaine à cause de la vague de froid qui sévit dans le pays, en proie à une grave crise humanitaire. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, l'entreprise minière Firing Strategic Minerals a entamé une phase d'échantillonnage du sol dans son projet ATEX de lithium et tantal. En une semaine, 40% des échantillons prévus ont été prélevés sur deux nouvelles zones de pegmatite, minerai qui contient du lithium. Près de 700 échantillons seront analysés au Ghana. Selon la compagnie minière, ces nouvelles zones cartographiées sont particulièrement encourageantes. En Afrique du Sud, Telkom a annoncé envisager de lancer une plateforme d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels cette année. L'entreprise de télécommunications accueillera sur son réseau des opérateurs sans infrastructure physique pour qu'ils puissent fournir des services. Telkom South Africa a déclaré être convaincu que ces partenariats vont créer des emplois et permettre le développement des petites et moyennes entreprises. L'Ouganda va bénéficier d'un décaissement de plus de 180 millions de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, équivalent à 240 millions de dollars, pour renforcer sa stabilité économique, indique l'institution financière qui a revu ses prévisions. L'économie du pays devrait progresser de 5,3% pour l'exercice 2022-2023 et l'inflation devrait atteindre 8,3% selon une nouvelle estimation du FMI.
Maintenant, les nouvelles sportives avec Timothée Dounangmaye. Bonsoir, Tim.
Bonsoir, Jean-Roger.
Suite du championnat d'Afrique des Nations Total Energy en Algérie 2022, avec les matchs de la deuxième journée dans le groupe B ce soir.
Le premier match oppose la RDC à la Côte d'Ivoire au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Zéro but partout, alors qu'on est maintenant à la 82e minute. Après s'être incliné face aux Sénégalais, les Ivoiriens courent toujours après leur premier point de la compétition. La RDC, elle, compte un point suite à son nul contre l'Ouganda. L'Ouganda, justement, affronte ce soir à partir de 19h temps universel le Sénégal, leader du groupe, avec 3 points. Le coach sénégalais Pape Thiaw dit s'attendre à un match difficile contre une sélection ougandaise qui ne cache pas ses ambitions. Son homologue ougandais Milutin Sredojevich a avoué de son côté avoir passé des nuits blanches à étudier le jeu du Sénégal. Tout cela, Jean-Roger, promet un beau match.
L'Algérie est le premier pays qualifié pour les quarts de finale du Champ 2022.
Après leur victoire en match inaugural face à la Libye, les Fennecs locaux ont enchaîné hier lors de leur deuxième sortie devant l'Éthiopie battue 1-0. Avec 6 points, l'Algérie est première du groupe A et arrache son ticket pour les quarts de finale avant son troisième et dernier match de poule. Elle est suivie par le Mozambique qui totalise 4 points grâce à sa victoire 3-2 face à la Libye, éliminée après 2 défaites en 2 matchs.
Demain, le Ghana affronte le Soudan dans le groupe C.
Rappelons Jean-Roger que le comité d'organisation du CHAN 2022 a accordé 3 points et le score de 3-0 au Ghana, au Soudan ainsi qu'à Madagascar du fait du forfait du Maroc. Le Ghana, double finaliste du CHAN, s'était incliné devant Madagascar dimanche 2-1. C'est un Ghana différent qui foulera demain la pelouse du stade Shahid Hamlaoui de Constantine, a assuré le sélectionneur ghanéen Anor Walker.
Quelques résultats du tennis avec l'Open d'Australie qui se poursuit à Melbourne.
Un match du second tour simple simple, messieurs, victoire de l'Américain Mackenzie McDonald 3-7-0 contre l'Espagnol Rafael Nadal. Une autre victoire américaine, celle de Frances Tiafoe 3-7-0 également contre le Chinois Chang Juncheng. Et le Russe Karen Khachanov a défait l'Australien Jason Klober 3-7-1. Chez les dames, l'Espagnol Cristina Buxa a battu la Canadienne Bianca Andreescu 2-7-1 et victoire de l'Américaine Corey Gauff en 2-7 contre la Britannique Emma Raducanu.
Page de sport VO Afrique signée Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Cameroun, les militants exhortent davantage de femmes à se présenter aux élections sénatoriales avant la date limite du 28 janvier. Seuls 26 des 100 membres du Sénat sont des femmes, mais les croyances patriarcales et le manque de soutien empêchent davantage de femmes de se présenter aux élections de mars. Le reportage de Moki Edwin Skinzeka depuis Maroua, le récit avec Chérubin Dorsil.
Des militantes ont rendu visite à des chefs de partis politiques dans le nord du Cameroun pour faire pression pour que les femmes soient mieux représentées au Sénat. Le président Paul Biya a annoncé que les élections sénatoriales se tiendraient le 12 mars et que la date limite d'inscription était fixée au 28 janvier. Aïssa Doumaran Gatansou est membre de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Comme vous le savez, les derniers sénatoriales qui s'achèvent là actuellement, sur 10 représentants, il n'y avait que 2 femmes seulement. Nous avons accueilli la nouvelle de la convocation du corps électoral pour les prochaines sénatoriales. Et à partir de ce moment, toutes les personnes qui sont intéressées s'activent pour pouvoir constituer les dossiers de candidature. Les femmes se déploient également pour pouvoir participer à ce rendez-vous important.
Les femmes camerounaises se plaignent depuis longtemps de leur faible participation à la vie politique à l'approche des élections. Selon les activistes, les attitudes patriarcales prévalent dans de nombreuses régions du pays où les femmes sont censées obtenir la permission de leur mari avant de se présenter à des élections. Le financement des campagnes est également un défi car de nombreuses candidates n'ont pas les moyens de verser la caution de 1 650 $ exigée pour se présenter au Sénat. Justine Diffaut est coordonnatrice du groupe Plus de femmes en politique.
Nous évoluons très insensiblement vers la parité parce que lorsque le président de la République à plusieurs reprises intègre dans sa profession de foi pendant la campagne, je m'engage à faire de la parité, ma ligne de mire, je tombe des nues, je dis waouh, nous allons passer à l'étape de la prise des mesures concrètes qui vont permettre de mesurer les avancées en matière de représentativité des hommes et des femmes à tous les sphères de la prise de décision publique. C'est de cela qu'il s'agit.
Les dirigeants politiques n'ont pas répondu aux appels lancés par les groupes de défense des droits pour que les partis politiques paient la caution des femmes candidates. Le parti au pouvoir a déclaré dans un communiqué qu'il examine les questions soulevées et qu'il ferait tout ce qui est nécessaire pour que davantage de femmes se présentent au Sénat. Pour ce parti, 4 candidats sur 10 devraient être des femmes. Marie-Thérèse Abena-Ondoa est la ministre camerounaise de l'émancipation de la femme et de la famille.
Nous avons vu l'Assemblée nationale passer de l'absence d'une femme à aujourd'hui 61. Au niveau du Sénat aussi, nous avons vu une avancée. Le Sénat est une nouvelle institution. Sur 100 sénateurs, nous en avions 26. Et il en est de même de l'élection municipale aussi. Le nombre de femmes maires titulaires a également augmenté. Nous pouvons citer, nous pouvons continuer à citer. Une chose est certaine, c'est que le chef de l'État promeut les femmes compétentes.
On doit dire que d'une seule femme législateur il y a 30 ans, le Cameroun compte aujourd'hui 61 femmes à l'Assemblée nationale sur 180 membres. Elle dit qu'il y a 30 ans, le Cameroun avait moins de 3 femmes maires, mais aujourd'hui, il y en a 39 sur 360 dans le pays. Environ 15 000 conseillers répartis dans 70 divisions du Cameroun constituent le collège électoral qui va voter pour 70 sièges de sénateurs. Les 30 autres sont nommés par le président Paul Biya.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La RDC a exporté ses premiers kilos d'or issus d'exploitations artisanales traçables, une première dans le pays depuis plusieurs décennies. Cette exportation a été rendue possible grâce à un partenariat avec les Émirats Arabes Unis. Ceci permet la mise en place d'une nouvelle chaîne de valeur dans l'exploitation des minerais dans l'est de la RDC. Les explications d'Alès Kati Kataï, notre correspondant à Kinshasa.
En une semaine, près de 40 kilos d'or ont été tirés de l'exploitation artisanale encadrée dans le sud Kivu. Une chaîne de valeur qui permet la traçabilité d'or et des revenus pour la RDC. Ces quelques 40 kilos d'or en une semaine sont une sacrée quantité si on doit les comparer à ce qui a été déclaré pour toute l'année 2021 et 2022, affirme le directeur général de Primera Gold SA, la firme émiratie qui a signé ce partenariat avec le gouvernement congolais.
Il y a de quoi être fier des résultats réalisés pour en arriver à ces premiers lots d'exportation. Résultat de moins d'une semaine, certes, mais bien mieux que toute l'année 2021 avec 23 kilos et 2022 avec 34 kilos dans la province du Sud Kivu. Ceci renforce notre espoir et détermination de brasser des quantités encore beaucoup plus importantes pendant les semaines et mois suivants.
En 2021, c'est seulement 23 kilos d'or qui ont été déclarés pour exportation et en 2022, seulement 34 kilos. Des quantités trop faibles qui prouvent le niveau de fraude dans l'exploitation des minerais dans l'est du pays. Selon des chiffres du gouvernement, plus de 20 tonnes d'or échappent chaque année au circuit officiel et sont ainsi exportées frauduleusement vers l'étranger. Une situation que le gouvernement s'engage à résoudre, déclare Antoine Nsamba, ministre congolais des Mines.
Le traquerage de la fraude et de la contrebande minière commencera du puits en passant par les centres d'achat, entités de traitement, aéroports d'embarquement jusqu'à la destination finale pour les minerais de l'or en provenance de notre pays. Ceci permettra donc à la République démocratique du Congo de pouvoir capter le flux matière et disposer de statistiques fiables en matière de production et exportation de ces minerais.
Longtemps maltraités et surexploités, les artisanaux pourront tirer leur épingle du jeu grâce à ce partenariat. Il constitue une réponse à la question sécuritaire et économique, précise Nicolas Kazadi, ministre des Finances.
2021, l'État, le Trésor, n'avait reçu que 14 000 dollars pour 23 kilos déclarés, alors que nous savons très bien qu'il y avait en jeu plus d'un milliard de dollars. Et en 5 jours, on a pu dépasser ces montants. Ça voudrait dire que demain, l'avenir sera meilleur en ce qui concerne nos statistiques de l'or qui aujourd'hui ont été trop longtemps siphonnées et se retrouvaient au Rwanda et en Ouganda notamment.
Selon plusieurs rapports des Nations Unies et d'ONG, l'exploitation illicite des minerais dans l'est de l'RDC enrichit et entretient plusieurs groupes armés et ces minerais sont souvent évacués via les pays voisins. Le président Tshisekedi déplore le fait que ses voisins n'aient pas accepté de l'accompagner dans la lutte contre ce trafic.
Je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. C'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes.
Grâce à ce partenariat, le pays espère exporter plus de 20 tonnes d'or d'ici la fin de l'année et gagner plus d'un milliard de dollars dans cette opération. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, les transporteurs ont engagé une grève illimitée à partir d'aujourd'hui pour protester contre les mesures d'urgence prises par le gouvernement après l'accident routier le plus meurtrier de l'histoire du pays. Ces mesures qui doivent permettre de lutter contre l'insécurité routière sont fortement contestées par certains acteurs qui parlent de décisions unilatérales de l'État. Notre correspondant Seydina Abagay a fait un tour à la gare interurbaine des Beaux Maraîchers de Dakar.
Des véhicules vétustes avec des feux de signalisation rouillés, des pneus usés et d'innombrables défaillances qui les obligent à démarrer sous assistance et à rouler en sursis. Tel est le décor peu reluisant qu'offre la gare interurbaine des Beaux Maraîchers de Dakar. Ici, beaucoup de voitures qui transportent les voyageurs ont largement dépassé l'âge de rouler et peut-être même celui d'aller à la casse. Et pourtant, elles sont toujours en activité, souvent en excès de vitesse et en surcharge. Une situation qui est autant de la faute des transporteurs que de l'État, d'après Aliou Thiaw, un chauffeur de bus.
D'une part, les chauffeurs qui font des excès de vitesse et de la surcharge n'ont qu'à prendre leurs responsabilités parce que faire cela relève du manque de professionnalisme. Il ne faut pas accepter de prendre des risques pour les transporteurs qui nous donnent leur voiture et restent chez eux au calme. D'autre part, il faut dire que la responsabilité de l'État est entière car le président Abdoulaye Wade avait renouvelé le parc automobile urbain. Mais depuis, il n'y a pas eu de renouvellement pour le parc interurbain, d'où la vétusté des voitures. Les rares véhicules neufs que vous voyez ont été achetés sur fonds propres. Il y a aussi le problème des routes. Certes, il y en a de nouvelles, mais certaines sont étroites et d'autres datent de l'époque coloniale.
Un constat qui fait dire à certaines associations de transporteurs que les mesures prises par l'État sont de nature à léser les acteurs du secteur, car elles font fi des réalités du terrain. Pape Modou Diakhaté, coordonnateur du groupe Sopay Transport Sénégal, appelle les autorités à se concerter avec l'ensemble des acteurs.
Macky Sall doit savoir qu'il est notre président à tous. Nous sommes sous sa responsabilité, donc il ne doit pas prendre de mesures qui nous affaiblissent. Le drame tragique de Sikulo qui a fait 42 morts est très dur pour nous aussi, car nous avons perdu 8 éléments, 3 chauffeurs et 5 apprentis. Donc nous avons perdu 3 fois. Nous avons perdu notre matériel, nos clients et notre personnel. Donc nous sommes parmi les plus dévastés. Nous appelons le président Macky Sall à revoir les mesures et surtout, nous lui rappelons qu'un leader ne doit pas agir sous le coup de l'émotion.
Dites-moi, vous devez réagir. Du côté des voyageurs comme Marem Sow, on regrette ces accidents tragiques tout en rappelant qu'ils peuvent être évités si les chauffeurs font preuve de plus de maturité au volant.
Les transporteurs doivent éviter les surcharges, enlever les places supplémentaires illégalement achetées sur les véhicules et demander aux chauffeurs de se concentrer sur la route et d'arrêter aussi de manipuler leur téléphone au volant. Il faut qu'ils se rappellent que nous, voyageurs, sommes des êtres humains et méritons un minimum de respect et de protection, car même s'ils transportent des animaux, ils doivent en prendre soin. Le tragique accident routier qui a frappé le pays nous a rappelé le drame du bateau Le Jola et personne ne veut revivre ça, car c'est douloureux.
Face à cette situation périlleuse, beaucoup de personnes et certains acteurs ont réclamé la démission du ministre des Transports routiers. Ce dernier a répondu directement en demandant à ses détracteurs d'être endurants, car il a une mission à remplir et il le fera jusqu'à son terme. Seydina Bagay, VOA Afrique, Dakar.
This is the voice of America. Washington, D.C.
L'Institut George W. Bush du Texas a établi un classement des zones métropolitaines aux États-Unis où les immigrants sont bien accueillis et prospèrent. Caroline Presutti de la VOA s'est intéressée au classement de Colorado Springs, une ville conservatrice dans le Colorado. Le récit avec Rosine Monezero.
Karthik Radunath Palanimalai est consultant en informatique. Après son arrivée aux États-Unis avec un visa technologique L1, il dit n'avoir reçu aucune aide de Colorado Springs pour s'installer. Il s'est plutôt appuyé sur la communauté indienne américaine de cette ville.
Ils m'ont aidé à trouver un appartement, un travail proche de l'endroit où j'habite, et pour les courses et autres choses. Ils m'ont vraiment aidé pendant les 3 premiers mois.
Jackie Jeremy Law du Centro de la Familia affirme que les nouveaux arrivants, comme Palanimalai, sont souvent invisibles et isolés.
C'est très difficile. Il y a beaucoup de barrières. Il y a les barrières culturelles, certainement du racisme. Une grande partie de notre personnel, une grande partie des immigrants que nous aidons sont victimes de la criminalité.
Colorado Springs est classé au 21e rang des 100 principales zones métropolitaines des États-Unis où les immigrants prospèrent. Certains ont trouvé surprenant ce classement de l'Institut George W. Bush. La ville est surtout connue pour son Académie des forces aériennes américaines et le Mont Pikes Peak qui culmine à plus de 4300 mètres dans les montagnes rocheuses. La mairie de la ville est largement conservatrice et de nombreux républicains s'expriment ouvertement pour mettre fin aux traversées illégales de la frontière. John Sofers est un républicain convaincu et maire de Colorado Springs.
Je ne pense pas que nous ayons un panneau indiquant Colorado City, un endroit idéal pour les migrants.
L'Institut Milken a classé la ville au 9e rang des grandes villes américaines sur le plan des performances économiques, un attrait pour les immigrants légaux et hautement qualifiés.
Nous avons une énorme armée. La défense représente environ 40% de notre économie. Il y a énormément d'emplois dans les domaines de la haute technologie, de l'espace, de la cybersécurité, etc. Et ce sont des domaines dans lesquels je pense que beaucoup de nos personnes qui migrent légalement ont une expertise. Et donc, ils regardent autour d'eux. Pourquoi ne viendrez-vous pas à Colorado Springs?
Coulomb Clark a rédigé le rapport de l'Institut George W. Bush intitulé « Migrants et opportunités dans les villes américaines ». Selon lui, plusieurs facteurs ont été pris en compte dans le classement.
Est-ce un bon endroit pour faire des affaires, pour créer une entreprise? Est-ce un bon endroit pour progresser dans sa carrière? Est-ce un bon endroit pour se trouver une maison?
À toutes ces questions, Palani Malahi répond par l'affirmative.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.